Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1 ce week-end. À partir de samedi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, sera à Mayotte, un département français en plein océan Indien, et où, comme avec d'autres territoires d'outre-mer, le lien avec la métropole est de plus en plus fragile. Ça s'est traduit dans les urnes lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen a recueilli 59% des voix au second tour. La leader Rassemblement National est d'ailleurs arrivée largement en tête dans de nombreux territoires ultramarins. En Guyane, La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, nous en parlons avec un ancien ministre des Outre-mer. C'était sous Jacques Chirac entre 2005 et 2007. Bonsoir Hervé Mariton.
Bonsoir.
Hervé Mariton qui est aujourd'hui président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Alors que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé là? Les Outre-mer votaient surtout à gauche ces dernières années et maintenant ils se penchent très nettement vers un vote protestataire, pour ne pas dire ultra-protestataire.
Je crois qu'il y a des causes multiples. On a constaté au fil de ces dernières années différents facteurs de crise, crise économique, crise sociale, crise sécuritaire aussi. Vous évoquez le déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte. Mayotte, c'est un niveau d'insécurité et un niveau de problème migratoire, l'immigration venant des Comores, tout à fait considérable, qui, et c'est en particulier ma perspective en tant que président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, pose un véritable problème aux entreprises. Donc on a, et là le ministre de l'Intérieur est franchement sollicité, un niveau d'insécurité, un niveau de problème migratoire qui abîme toute volonté de développement économique. Il y a une volonté d'avancer, il y a des moyens mis en œuvre par l'État, mais tout ça bute, s'agissant de Mayotte, sur des problèmes de sécurité, mais c'est vrai aussi, à dire vrai, en Guadeloupe. Il y a quelques mois, on a connu des problèmes sociaux en Guadeloupe, avec un son de blocage, mais ces problèmes sociaux étaient en partie amplifiés par des problèmes de sécurité. Donc ces questions, apparemment simplement, ce qui est déjà lourd, régalienne que sont les questions de sécurité, portent en effet lourdement sur la vie économique et aggravent des problèmes structurels de chômage, de pauvreté, dans certains territoires de baisse démographique et de fuite de la jeunesse.
Voilà, les territoires ultramarins où l'on rencontre la grande pauvreté que l'on ne voit pas en métropole notamment.
Oui, on a des taux de pauvreté qui sont élevés et qui sont dus en bonne part à un niveau de chômage tout à fait considérable, chômage des jeunes, mais pas uniquement chômage des jeunes. Tout ça étant aggravé par un phénomène de société à double vitesse sur beaucoup de ces territoires, où on a un secteur public très développé, j'ose dire excessivement développé, qui bénéficient de surrémunérations, c'est-à-dire de rémunérations plus élevées que ce qu'elles sont en métropole. Et à côté de cela, eh bien, dans le privé, d'abord, une difficulté à suivre ces rémunérations, d'évidence. Et pour ceux qui ne sont ni dans l'entreprise, ni dans la fonction publique, des difficultés sociales aggravées, parce que ces surrémunérations sont évidemment une des causes, pas la seule, mais une des causes de la vie chère. C'est-à-dire que non seulement on peut avoir plus de difficultés à trouver un emploi, mais en plus, on a un panier d'aménagères dont le prix, est en particulier dans l'alimentation, est significativement plus élevé qu'en métropole. Et la solution à tout ça, c'est arriver à débloquer le développement économique, bien sûr.
Et le surdéveloppement des infrastructures et des services publics ont un effet pervers, alors en particulier à Mayotte, où de nombreux Comoriens viennent notamment se faire soigner.
On a en effet, s'agissant de Mayotte, un appel vis-à-vis des Comores. On dit souvent, et c'est vrai, que la maternité à Mayotte est la plus grande maternité de France et d'assez loin. Donc il y a en effet une occasion supplémentaire de dépenses publiques, une forte sollicitation à l'égard des collectivités locales ou de l'État dans la construction d'écoles, dans la construction de collèges, de lycées. S'agissant de ce département, on est là sur des difficultés qui sont des difficultés lourdes, je le redis, où des questions migratoires, sécuritaires, entravent gravement le développement de la vie économique.
On a parfois aussi le sentiment d'une totale déconnexion entre la métropole et ses territoires ultramarins, comme si les consignes venues de Paris n'étaient pas du tout adaptées à la réalité du terrain. On l'avait vu avec la campagne de vaccination contre le Covid. Est-ce qu'il faut aller vers plus d'autonomie de nos outre-mer?
en tout cas, il ne faut sûrement pas de consignes. Enfin, c'est intéressant que vous utilisiez ce mot, mais c'est vraiment, si vous m'autorisez, ce serait la plus mauvaise manière de s'y prendre. S'agissant de la vaccination, personnellement et au nom des entreprises, nous regrettons qu'il n'y ait pas eu de meilleure réponse de nos concitoyens aux offres de vaccination sur un certain nombre de territoires ultramarins, pas tous au demeurant. Et ça, c'est un vrai souci. Une partie de ce souci vient probablement du fait que cette vaccination était présentée de manière très verticale. J'ai entendu, y compris le président du Haut Conseil scientifique, qui, avant la fin de sa mission, disait combien il regrettait France entière qu'il n'y ait pas eu davantage d'horizontalité, d'association de la population, de concertation autour de la mise en œuvre des politiques sanitaires. Je pense que ça a eu un impact redoutable outre-mer, parce que très clairement, les directives, ça ne marche pas. Et on n'a pas besoin de directives, monsieur, on a besoin au contraire de liberté. Outre-mer, on a une économie bien trop administrée. Si on veut que cette économie rebondisse mieux, et clairement il y a des ferments de dynamisme, il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer, il y a des entrepreneurs qui ont envie d'aller de l'avant, eh bien il faut non pas davantage de contrôle administratif, il faut au contraire davantage de liberté, il faut moins de directives de Paris et au contraire davantage d'adaptation. Les outils juridiques potentiellement existent, le pouvoir dérogatoire des préfets, les adaptations réglementaires, les adaptations législatives qui sont possibles outre-mer. Ces outils sont fort peu mobilisés. Et il y a au contraire une espèce de tentation soit de ne rien faire en termes d'adaptation, hélas, or nous, entreprises, on demande ces adaptations. Au moment où je vous parle, je suis à Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, il y a évidemment des enjeux permanents à Saint-Pierre-et-Miquelon d'adaptation. Est-ce qu'on peut ou non utiliser des produits canadiens? On est à quelques kilomètres du Canada. Comment est-ce qu'on articule les normes européennes, les normes canadiennes? Tout ça, c'est une souplesse locale qu'il faut absolument flatter, développer. Et c'est important aussi en Guyane, et c'est important aussi à La Réunion, aux Antilles, en vérité, partout. Donc cette adaptation, elle est tout à fait essentielle. Il y a un potentiel, il faut qu'il puisse s'épanouir. Donc, pas de consignes, mais de la liberté, de l'adaptation, c'est tout à fait indispensable.
Alors, le pouvoir actuel, pourquoi est-il autant défié? On l'a vu dans les urnes lors des dernières élections. Il y a eu la présidentielle, mais aussi les législatives. Pourtant, j'ai le souvenir qu'Emmanuel Macron, hein, qui était venu en Polynésie en 2021, ça s'était plutôt bien passé. Il était venu aussi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles en 2018. Pourquoi ce pouvoir en particulier est-il autant défié?
Vous avez un mélange de raisons locales et de raisons nationales. J'étais avec le président de la République l'an dernier, en juillet, en Polynésie française. Très franchement, en Polynésie, je pense que le choix des électeurs, d'abord aux élections présidentielles, le président Macron a été majoritaire, et aux législatives, les choix ont bien davantage reposé sur des raisons locales que sur des raisons nationales. Une fois qu'on a dit ça, les crises que j'ai évoquées, crise sociale, crise économique, crise sécuritaire, crise climatique dans certains cas, mettent évidemment le pouvoir sous tension et la situation est difficile. Ensuite, il faut bien dire que ce soit Emmanuel Macron ou d'autres candidats à l'élection présidentielle, il n'y a pas eu un intérêt majeur porté sur les Outre-mer pendant la campagne présidentielle. Nous, Fédération des entreprises des Outre-mer, on a travaillé et publié 30 propositions qu'on a aussi fait vivre à l'occasion du débat législatif, qu'on fait toujours vivre aujourd'hui. Mais l'élection présidentielle n'a pas véritablement abordé ce débat. Et donc maintenant, il faut vraiment ouvrir le chantier. Et si le gouvernement en est conscient, si le président de la République en est conscient, ça nous va. Il faut avancer parce qu'on ne peut pas se résigner à aller de crise en crise. Vous voyez bien en gros. À Paris, en métropole, on s'intéresse aux Outre-mer quand il y a une catastrophe qui se produit, quand il y a un blocage, quand il y a une crise, quand il y a des ronds-points bloqués. Crise des gilets jaunes sévères à La Réunion en 2019, les événements sociaux sécuritaires de la Guadeloupe à l'automne dernier. Il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Donc nous, on dit très franchement qu'il y a des opportunités de rebondir, qu'on est capable de le faire et qu'au fond, les Outre-mer, c'est pas des gens qui passent leur temps à se plaindre et à réclamer. Les Outre-mer réclament davantage de liberté, non pas tant sur le plan institutionnel qui à la limite n'est pas le sujet majeur aujourd'hui, mais en termes de développement économique et social, en termes aussi de valorisation de nos propres richesses. Quand on parle de transformation numérique, il y a des choses à faire outre-mer. C'est justement un des dossiers qu'on avait regardé avec Emmanuel Macron en Polynésie, c'est comment, en termes de call center par exemple, profitant du décalage horaire, on peut faire des choses intelligentes à partir de la Polynésie. Comment, en termes de transformation numérique, on s'assure que la continuité territoriale soit réalisée. Ce n'est pas toujours le cas sur un certain nombre de territoires. Dans le domaine de la transition énergétique, mais il y a des choses à faire, tout à fait considérables. On est sur un secteur, ou des secteurs où parfois on brûle encore du charbon et beaucoup de fuel. Eh bien, on peut développer l'éolien dans de bonnes conditions, on peut développer les énergies marines et montrer un chemin d'exemple pour la métropole, semblablement sur la transition écologique. Quand on a des économies insulaires, le problème du recyclage, il se pose éminemment. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être tentées et développées. Pour répondre à votre interview, je sors de la visite d'une ferme hydroponique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, elle développe une manière de faire à une échelle et sur une méthode technique qui peut inspirer, y compris en métropole, quand on se pose la question au regard du changement climatique sur le village de Miquelon, village qui est sur l'archipel, là, à quelques enclavures du Canada. Changement climatique, il provoque une élévation du niveau de la mer. Peut-être qu'à un moment, il faudra déplacer le village. C'est un enjeu pour des entreprises, c'est un enjeu pour la population, mais ça peut ouvrir un chemin qui inspire, y compris en métropole. Donc, pour résoudre cette crise, il ne faut pas se plaindre, il faut aller de l'avant, mais il faut qu'on soit dans une liberté, dans une dynamique qui nous permette d'aller de l'avant.
Alors, comment, dans les territoires d'outre-mer, a été perçu le dernier remaniement ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que, dans ce nouveau gouvernement, on a retiré le ministère des Outre-mer, c'est rattaché à la place Beauvau maintenant. Alors il y a un ministre délégué, Jean-François Carenco, qui sera d'ailleurs avec Gérald Darmanin ce week-end à Mayotte. Comment ça a été perçu, cette disparition du ministère de l'Outre-mer ?
Pour vous répondre de manière directe, inégalement, s'agissant de l'homme, Jean-François Carenco est un homme de qualité. Il a servi Outre-mer. Dans ses responsabilités de président de la Commission de régulation de l'énergie, il s'est intéressé aux enjeux de l'outre-mer, même s'il y a encore beaucoup à faire sur le terrain de la transition énergétique. L'homme est apprécié. Mais le ravalement du ministère, de ministère plein à ministère délégué, clairement, n'a été apprécié ni par la classe politique, ni par les responsables économiques, ni par la population. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. La réalité est là. Une fois que les choses sont ainsi, il faut regarder ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut en faire de positif et d'intelligent. Une personnalité de qualité avec Jean-François Carenco. 2, une responsabilité qui est accordée à un ministre qui a manifestement de l'abattage, qui est Gérald Darmanin. Et pour le coup, je me suis exprimé là-dessus, je viens de le partager avec vous, chiche, monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'Outre-mer et ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ministre de la Sécurité, eh bien, la sécurité est un paramètre important dans les Outre-mer parce que, aujourd'hui, les problèmes de sécurité pèsent lourdement sur la vie économique. Monsieur Darmanin, vous êtes aussi ministre des collectivités locales. On a Outre-mer sur un paquet de collectivités locales des délais de paiement qui sont insupportables, avec des entreprises qui sont payées parfois au bout de plusieurs années de facturation. Personne ne tolérerait ça en métropole. Eh bien, monsieur le ministre, passez à l'action pour apporter de la sécurité économique aux entreprises. Donc, on prend le contexte tel qu'il est. Ce n'est pas les Outre-mer qui choisissent les ministres, c'est encore moins le président de la Fédération des entreprises des Outre-mer. On a un homme de qualité ministre délégué. On a un ministre de l'Outre-mer plein qui est aussi ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité. Il y a un enjeu, on veut une réponse efficace. Chargé des collectivités locales, il y a un enjeu, on veut une réponse efficace.
Alors, s'agissant du cas de Mayotte, vous évoquiez la sécurité sur l'île de Mayotte. On fait très facilement le lien entre insécurité et immigration.
Le lien est possible, évidemment, et de toute manière, dans une très grande fragilité. Vous avez à Mayotte un système scolaire.
Je pourrais prendre le cas de la Guyane aussi, hein. Il n'y a pas que Mayotte.
Mais en Guyane, on a aussi une très forte pression migratoire. Et on a en Guyane le problème de l'orpaillage, où on met tellement de contraintes sur l'exploitation régulière de l'or qu'en réalité, ce sont des exploitants clandestins qui déstabilisent gravement le territoire. Donc tout ça, c'est des questions de sécurité qu'il faut régler en effet. Et est-ce que cette pression migratoire facilite les choses ? Non, elle crée des problèmes de logement, elle crée des difficultés de structure sanitaire, elle crée des difficultés pour la scolarisation des enfants qui sont scolarisés à temps partiel, en vérité, à Mayotte, les uns le matin, les autres l'après-midi. Tout ça ne crée pas un climat sain. Donc, évidemment qu'il faut un meilleur contrôle migratoire. Et c'est pas simple, on le sait, à Mayotte, et c'est pas simple non plus en Guyane.
Merci de nous avoir éclairé ce soir, Hervé Mariton. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, ancien ministre des Outre-mer également. C'était sous Jacques Chirac entre 2005 et 2007. Rappelons également que nos outre-mer ont un rôle extrêmement important. Ils permettent à la France de revendiquer le deuxième espace maritime au monde.
Oui, et il y a de l'espoir parce qu'il y a une ressource d'énergie et une volonté d'entreprendre.
Merci à vous. Beaucoup, Hervé Mariton. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition d'Europe Soir. Elle a été réalisée par Christophe Pierrot, produite par Solène Godin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi pour Europe Midi, la dernière de la semaine. Dans quelques instants, votre rendez-vous musical en compagnie de Stéphanie Loire. Merci d'être avec nous sur Europe 1.